mettre des gants blancs pour ce genre d'exercice, c'est une idée qui ne me viendrait pas.
Jusqu'à 14h, on en jase.
Midi 37, on en jase sur les ondes de Boulevard 102.1. Émission d'actualité du lundi au vendredi de midi à 14h. Demain, Pascal, il va avoir un gros point de presse à 9h15 demain matin. La Ville de Québec va annoncer ce qui se passe avec les terrasses pour la période estivale sur la Grande Allée.
Oui, parce que je sais qu'il y a des commerçants qui en ont fait derrière, en fait, la Grande Allée pour comme agrandir un peu leur resto.
Exactement, mais là, c'est de savoir s'ils ont le permis pour et tout ça. Donc, c'est tout ce qu'on va savoir demain. Alors, évidemment, Mathias va être sur le terrain avec nous. On va pouvoir lui parler immédiatement près du caucus. Et on va avoir aussi Alexandre Grenier, copropriétaire du groupe Maestro, justement, qui a parlé avec nous du dossier régulièrement. Alors, à pas manquer, on couvre beaucoup l'actualité locale au niveau de l'émission On en jase. Donc, on va faire un beau dossier là-dessus demain, en même temps qu'on va vous présenter ces nouvelles nominations au Conseil des ministres. Quoi qu'il y aura-tu des nouvelles nominations? Est-ce que ça va brasser? Ouais. À date, pas mal, tout le monde a l'air reconduit dans la même chaise.
Ben, garde, parlons-en.
Vas-y.
C'était
donc
dans les nouvelles aujourd'hui parce qu'effectivement, ben oui, après le passage, à tout le monde en parle de Mme Fréchette, de Mme Christine Fréchette qui est à la tête à la CAQ. Mm-hmm. On a posé la question, est-ce une continuité pour le Conseil des ministres ou un changement de la nouveauté? On vient d'en parler aussi avec Emmanuel Latraverse dans le caucus. Il ne semble pas avoir beaucoup de surprises qui nous attendent, là. Il y a des rumeurs, Jeff, puis pour, entre autres, les finances, Éric Girard, les portefeuilles économiques sont convoités, on le sait. Entre autres, Bernard Drinville, il faudrait qu'il y ait une place de choix parce que c'était son adversaire à la course à la chefferie. La rumeur court comme quoi on le verrait à l'économie, à l'énergie aussi qui circule. T'sais, il est rigoureux là, quand même, Bernard Drinville. Il va falloir refléter le respect qu'on se doit en politique aussi face à nos adversaires. On voit Simon-Jolin Barrette toujours à la justice. Il n'y a pas grand-chose qui changerait dans le Conseil des ministres qu'on attend pour demain. Assermentation, formation de la garde rapprochée, premier caucus, rencontre avec Mark Carney. Beaucoup de choses qui se sont passées dans la machine caquiste et donc pour Mme Fréchette au courant des derniers jours. Je vais te parler du prix de l'essence parce que c'est aujourd'hui qu'on a cette suspension de la taxe d'assises par Ottawa. 10 sous qui seraient de moins sur votre litre d'essence à la borne, mais ça va coûter des millions au gouvernement québécois. Et pourquoi? Ben, le mode de calcul de la taxe de vente provinciale, là, ça, c'est appliqué sur le prix total à la pompe.
Oui, c'est ça. Quand toutes les taxes sont passées, là, on met à TVQ. Mais là, comme on a enlevé une taxe, bah, il va avoir moins de TVQ. Bon, pratique pour nous dans nos poches.
Moins pour la province.
Oui, c'est ça. Puis là, Christine Fréchette qui nous a dit oh, « Oui, je vais m'attaquer à la taxe à l'essence. » J'ai hâte de voir comment elle va s'attaquer à ça parce que c'est une double perte pour le gouvernement si elle enlève une certaine taxe à l'essence.
Ben oui, puis le cabinet du ministre des Finances, Éric Girard, en parlait. Hein, impact sur les finances publiques, ça va atteindre près de 25 millions de dollars, comme je vous disais. Puis c'est pour toute la durée de la mesure parce que jusqu'à maintenant, c'est prévu jusqu'à la fin du travail.
Oui.
Alors, jusqu'en septembre. Il y a des analystes économiques aussi qui parlent du fait que le gouvernement Carney pourrait prolonger cette exemption de façon permanente. Donc, beaucoup de choses à éclairer et qui risquent de suivre cette suspension de la taxe d'assises. Il y a eu un accident ce matin du côté de l'autoroute 20. Juste dire que le chauffeur du camion qui s'est fait percuter va bien, est au centre hospitalier par mesure préventive, mais c'est vraiment le déversement d'huile puis de diesel sur la chaussée qui a ralenti et qui fait en sorte que depuis 8h40, on s'affaire là, à corriger la situation sur l'autoroute Jean-Lesage en direction ouest, à la hauteur de l'avenue Taniata. Je peux également te parler de l'inflation. Hein. Ça est en augmentation en mars au Canada. Augmentation de 2,4. Est-ce qu'on est surpris de ce que rapporte Statistique Canada? La réponse, c'est non, en raison de la guerre en Iran. C'est sûr que ça a fait jouer un peu le thermostat économique, tiens.
Okay, oui.
Et toujours en raison, et c'est une des explications potentielles de cette hausse d'enrôlement dans l'armée canadienne, mais on annonce le plus fort recrutement de militaires en 30 ans. C'est porté par des meilleures conditions de travail, un système de candidature qui semble simplifié, mais on a recruté 7310 personnes dans la dernière année. C'est le nombre le plus élevé en au moins 30 ans. C'est ce que rapporte le Journal de Québec. Donc, deuxième année consécutive où le pays a atteint des cibles rehaussées de recrutement. Pour les femmes aussi, 1275 d'entre elles qui ont été enrôlées l'année dernière. C'est 17 % de l'ensemble des recrues. Il y a aussi un certain contexte là, de conflit à l'international qui aurait fait en sorte que des gens se seraient tournés vers ce métier-là. Puis peut-être terminer avec une petite nouvelle. Jeff, tantôt, on en abordera d'autres, là, entre autres ce qui va se passer, peut-être une grève chez Air Canada et tout ça en juillet. Mais une amende de 1 500 $ qui a été donnée à un conducteur au Saguenay.
OK. Explique-moi ça.
Est-ce que tu as des doutes du pourquoi?
1 500 $, un conducteur au Saguenay, cellulaire au volant.
Non. Je te donne un autre indice. Conduit une camionnette. Conduisait dans ce cas-ci.
Conduisait une camionnette, 1 500 $, ben ça doit être grand excès de vitesse.
Non! Il a fait comme dans le temps. Il a embarqué du monde dans sa boîte de pick-up.
Ben voyons donc!
5 personnes dans la boîte de camionnette. Puis il y a quelqu'un, en fait, c'est le porte-parole du service de police de Saguenay, qui dit qu'en 21 ans de service, c'est la première fois qu'elle voit ça. Mais tu sais, il y en a pas mal qui ont commenté comme quoi dans les années 80, 70, 90, ça s'est vu.
Tout le temps de même.
Mais là, tout le temps a changé, ce n'est plus légal.
Nous autres, on était 10 dans Ford familial de mon père pour aller chercher des frites au casse-croûte.
En avant ou dans la boîte?
Ouais, dans la boîte, partout. Tout le monde t'empile un par-dessus l'autre.
C'est fou quand tu y
penses. On voulait tous aller jouer au petit module de jeu à côté du casse-croûte.
Puis vous embarquez là-dedans.
On embarquait là-dedans. Mon père disait, je m'en vais chercher des patates parce que là, on mettait des hamburgers et des hot dogs sur le barbecue. Qui vient? Puis là, on était 10 petits cousins, petites cousines. Hey, nous autres, parfait.
Puis avoue, là, maintenant, c'est inconcevable de juste se projeter là-dedans.
C'est sûr. 418-971-1021, c'est quoi l'histoire la plus folle, justement, que vous avez vécu avec des parents ou quoi que ce soit dans une voiture? Hey, je conduisais le Jeep à mon oncle qui pesait ses pédales. Moi, je le conduisais dans des pits de sable. J'avais 6 ans.
Pits de sable, ça doit se faire encore, là, même si on n'est pas dans la grande légalité. Mais moi, je me souviens, écoute, je suis plus jeune que toi, mais on n'est pas si loin, là, à 32. Ouais, ouais. Dans le camion de mon père, en avant, c'était un genre de grand banquette. Là. Mm-hmm. Il y avait juste une banquette. Ouais. On était la famille de 5 là-dedans. Moi, j'étais sur les genoux de ma mère, puis il y avait le chien au pied, là. Là, on dirait qu'on est début des années 90.
C'est ça. Hey, moi, je faisais des lifts à l'école. On était 6 dans une Géo métro.
Un auditeur?
Oui, ouais, une auditrice. Je m'étais déjà caché, moi aussi, dans le coffre de la voiture d'un des parents d'un de mes amis. Puis on avait demandé à sa sœur de venir nous reconduire au bar.
Les parents le savaient-tu?
Non, pas en tout. Okay, on se cachait dans le coffre parce qu'on voulait juste monter à 6. On était trop cheap, payer le taxi. Le vestiaire à 2$, mais on dépensait 150$ dans le bar. Ça, c'est... C'est ça, la jeunesse.
Mais tu sais, dans la nouvelle que je te parle, là, le conducteur, c'est un homme de 18 ans. Fait que, il n'a pas connu ces années-là. Il n'y avait pas beaucoup d'excuses pour faire ça.
En effet, tu as entièrement raison. On réécoute le but gagnant de Joral Slafovski.
Here comes Suzuki in. Midpoint Hudson. Down low, Slafovski. For Juraj Slafkovský.
Et pour en parler avec nous, on a notre chroniqueur sportif Alex Laramin. Alex, 1-0 dans la série pour le Canadien de Montréal face au Lightning. 3 buts en avantage numérique pour Juraj Slafkovský. Oh, là, soudainement, toutes les mauvaises langues qu'on entendait dans les deux dernières années sur pourquoi on a choisi Slafkovský viennent de se taire.
Ben ouais, je pense que honnêtement, le match d'hier, on savait déjà qu'il était bon, Juraj, là, je veux dire, il a été bon aux Olympiques, il a été bon cette saison-ci, mais hier, pour moi, c'était la grande éclosion de Juraj Slafkovský. Tu l'as dit, il a prouvé pourquoi il est un vrai premier choix au total. C'est un gars de 6 pieds 4, c'est un gars physique, puis il a prouvé justement qu'en série, c'est son style de hockey. Puis il a vraiment pris ce match-là sur ses épaules, parce qu'il faut dire que ses compagnons de trio, là, Caulfield, Suzuki, ont traîné le Canadien toute l'année, mais c'était pas le cas hier. Là, le match-up, si on peut dire, avec le trio de Cirelli a été dominé là, du côté des... du côté de Tampa Bay à 5 contre 5. C'est vraiment sur l'avantage numérique que le Canadien était capable de capitaliser. Puis de voir un Juraj qui n'a pas peur justement d'aller vers le filet puis de lancer. Tu sais, le but gagnant, c'est exactement ça. Il aurait pu essayer d'aller rejoindre ses coéquipiers, mais non, il a dit, hey, moi, j'étais assez bon. Il lance, il marque. Oh non, c'était un scénario rêvé pour le Canadien.
C'est un excellent point que tu amènes. Tu amènes aussi un très bon point en disant que le trio de Cirelli a eu le dessus sur celui de Suzuki. Est-ce que ça t'inquiète pour le match numéro 2 et la suite de la série? Mais je te dirais surtout les matchs à Tampa Bay où John Cooper a le dernier changement.
Ben, c'est sûr que ça laisse pas présager une grande série là, 5 contre 5 pour le premier trio. Puis tu l'as dit, à l'extérieur, on connaît la réalité, dernier changement. Fait que Cooper peut décider un peu des match-ups puis de mettre justement le trio de Cirelli contre celui de Suzuki. À domicile, on devrait être capable de peut-être reprendre l'avantage puis de leur donner un match-up un petit peu plus favorable. Mais moi, ça ne m'inquiète pas parce que les grands joueurs vont réussir à se lever au grand moment. Visiblement, Caulfield était visé là, hier. On a vu qu'il a été plaqué à quelques reprises. Selon moi, il faisait partie du plan de match de Cooper. Là, peut-être qu'on va essayer de regarder un petit peu plus Juraj. Ça va ouvrir Caulfield. Donc, moi, je pense qu'il y a trop de talent sur ce trio-là puis ils vont être capables de produire quand même au courant de la série.
Parmi les joueurs visés, Lane Hudson, qui a été pressé de tout part par les attaquants du Lightning. J'ai trouvé très intéressante la stratégie de Tampa Bay d'aller à fond de train vers lui et non pas d'être en position où on attend qu'il accélère. J'ai trouvé ça très brillant de la part de John Cooper.
Ben oui, honnêtement, c'est quelque chose qu'on a observé tout au courant de l'année. Lorsqu'on met de la pression sur les défenseurs du Canadien, c'est là souvent qu'on fait des erreurs, on fait des revirements en zone. Là, ça se met à tourner dans la zone du Canadien. T'sais, hier, les buts en avantage numérique de Tampa Bay, on les voyait venir. Là. Je veux dire, on était pris. Là, tu voyais que les joueurs du Canadien étaient nerveux. On sentait venir ces buts-là. C'est justement en mettant de la pression sur des défenseurs comme Lane Hudson. Parce que si tu le laisses faire, je veux dire, Lane Hudson, il est trop rapide, il va te faire une petite feinte, il va y aller. Il faut vraiment que tu prennes le taureau par les cornes puis tu fonces vers lui. Fait que oui, c'est un bon plan de match là, du côté de Cooper qui prouve encore pourquoi c'est un des meilleurs coachs dans la Ligue nationale au final.
Tu as parlé de Suzuki et Caulfield qui n'ont pas eu le meilleur des matchs. On s'en sort grâce au tour du chapeau de Slafkovský. Du côté de Tampa Bay, Brendan Eagle a été excellent. Mais Nikita Kucherov a été passablement absent dans le match.
Ben ouais, Nikita Kucherov, on l'a vu aussi dans les deux matchs hein, contre Tampa Bay plus tôt cette saison. Il a l'air dérangé contre le Canadien. Oui. Je ne sais pas si y a des joueurs du Canadien qui ont...
Il est en périphérie, je comprends pas. Il n'est pas du tout pareil comme d'habitude.
Non, puis tu sais, à un moment donné, il y a un moment, je pense que c'était en troisième période ou en deuxième période, Jacky puis lui, ils se sont parlé. T'sais, Kucherov... T'sais, c'est un joueur élite dans la Ligue nationale. Il n'y a rien à faire à aller se prendre avec Jacky. Ce n'est pas son rôle. Il devrait se concentrer sur le hockey. Mm-hmm. Mais on voit justement qu'il essaie de se coltailler avec les joueurs du Canadien. Il devrait lâcher tout ça. D'après moi, Cooper va le rencontrer. Il va lui dire, regarde, on a besoin de toi à l'attaque. Là. Laisse faire le jeu physique, tout ça. On a besoin de toi. Parce qu'à 5 contre 5, oui, en avantage numérique, on l'a vu. Là, mais à 5 contre 5, totalement absent. Il faut dire que les défenseurs du Canadien ont fait... Bon travail là, contre un des meilleurs attaquants de la Ligue, littéralement.
On a tous les deux prédit une longue série. Toi, t'as mis le Canadien en 7, si je me rappelle bien. Moi, j'ai mis Tampa Bay en 7. Mais là, si le tricolore l'emporte demain soir, la pente va être abrupte pour le Lightning. C'est vraiment un match de la plus haute importance pour le Lightning en ayant perdu hier à domicile.
Ben c'est surtout que toute la pression va vraiment du côté de Tampa Bay. Là. Je veux dire, oui, ils ont un bon club, ils ont gagné 2 coupes, mais ça reste que dans les dernières années, ils sont fait sortir plus tôt que tard.
Ben, en première ronde contre les Panthers de la Floride, là, c'est aussi simple que ça. Là.
Ben exactement. Puis là, de perdre s'ils perdent les deux matchs à domicile, je veux dire, c'est terminé. Là. Je veux dire, le Canadien va essayer de fermer ça à Montréal. À la limite, peut-être un match 5, mais ça devient drôlement compliqué. Fait que toute la pression est sur Tampa Bay. Ils doivent absolument gagner le match de mardi. Tu sais, je veux pas dire que le Canadien peut se permettre de le perdre, mais un peu en même temps. Là. Même si on le perd, on revient à domicile 1-1. Puis selon moi, tu sais, le match vendredi à Montréal, je veux dire, il n'y a aucune manière que le Canadien échappe à ce match-là. Ça va être la folie en ville. L'ambiance, ça va porter les joueurs du Canadien. Fait que, non, il faut dire que le Canadien est très bien placé, mais quand même, c'est un match qui se termine en prolongation. Puis selon moi, ça me prouve que d'après moi, Tampa Bay va gagner mardi puis qu'on s'en va pour une série en 7.
Je suis très d'accord avec toi. Dans les autres séries, Alex, Sénateur, Hurricane, les Hurricanes l'emportent 2-0. Belle performance de Frédéric Anderson, mais ça prouve que des fois, on dirait qu'on les prend à légère, ces Hurricanes-là, puis Colin qui sont sa job.
Ben, c'est pas un club spectaculaire, les Hurricanes, puis c'est la même recette qu'on voit depuis des années. C'est pas un club qui est physique, c'est un club qui est rapide, on aime ça tirer au filet, on finit tout le temps avec des 35-40 lancés, c'est vraiment leur ADN, l'ADN de Rob Brind'Amour. Puis oui, t'as raison, à chaque année, on les sous-estime, mais c'est un méchant bon club de hockey, puis tu sais, moi, je vois Brady Tkachuk qui, à la mise en jeu initiale, qui se met à se battre, là.
Ouais.
C'est pas son rôle, tu sais. C'est correct, là, c'est un tough, là, mais t'es un des meilleurs joueurs de ton équipe de te sortir pour 5 minutes en début de match. T'sais, imaginez si Juraj avait fait ça. À la mise en jeu initiale, Juraj, c'est pas son rôle.
Je suis d'accord avec toi.
Il doit jouer au hockey puis aider son équipe pour avoir des punitions.
Deuxième match ce soir, 19h30. Autre série qui a le deuxième match ce soir à 19h, les Flyers contre les Pingouins. Les jeunes Flyers qui ont continué de surprendre. Et Travis Sanheim, qui a joué pour l'équipe Canada, a réduit au silence la bande à Sidney Crosby. Ça, c'est un joueur sous-estimé dans la Ligue nationale.
Ben, c'est ces défenseurs défensifs-là hein, qui ont souvent pas le mérite justement qu'on leur doit. Ils passent un peu sous silence parce que c'est pas des Cale Makar, des Quinn Hughes qui ramassent des points par saison, mais ils sont drôlement efficaces. On peut penser à Mike Matheson avec les Canadiens. T'sais. Mike Matheson, c'est pas le
C'est
défenseur
vrai.
qui a fait le plus de points, mais est-ce que Mike Matheson est aussi important que Lane Hudson? Pratiquement, là, je veux dire, si on perdait Mike Matheson, ça ferait mal, surtout considérant Dobson, là. Mais oui, pour venir aux Flyers, je veux dire, il semble avoir un élan de jeunesse hein, dans la Ligue nationale. On a vu les Sabres remonter hier
Ouais.
contre Boston. Nous, on a gagné. On voit les jeunes Flyers qui
T'as
ont, pour
raison.
le premier match, l'ascendant sur les Pingouins. Puis tu vois un Porter Marton qui débarque du
Et
college, puis pratiquement dans les meilleurs joueurs de la Ligue en ce moment. Là, je veux dire, il est
encore
gros,
un
il est
but samedi
fort.
soir.
Ben oui, non, honnêtement, c'est impressionnant. Moi, j'ai pris les Pingouins, là, mais je vais t'avouer qu'après le premier match, j'étais un peu inquiet.
Ouais,
Un
j'avais
peu
pris les
inquiet.
Flyers. Les Sabres, t'en as parlé. Belle remontée hier, justement, après 27 arrêts en deux périodes pour Jeremy Swayman. Finalement, les Sabres en ont marqué quatre consécutifs dans la deuxième portion de la troisième période. Tage Thompson avec deux buts, une passe. C'est un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale avec le gabarit qu'il a.
Ben ouais, moi, ce que je vous attendais de voir, c'est. Pour moi, les Sabres de Buffalo, c'était des points d'interrogation partout. Je veux dire, Tage Thompson n'avait jamais joué en série de sa vie.
En
C'est
effet.
sûr qu'avec son gabarit, on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait des bonnes performances, mais il y a une différence entre être bon et être très bon. Puis là, on voit que Tage Thompson, lui, dans la catégorie des très bons, tu l'as dit, dans les meilleurs de la ligue. Donc, il va être capable de transporter cette équipe-là. C'est ça qu'il a fait hier. Il a marqué les deux gros buts pour ramener son équipe dans le match. Non, les Sabres vont être à surveiller, mais compterait pas les Bruins de Boston pour mort. La série
Non.
a commencé à Buffalo. Puis ça reste on était capable de prendre l'avance dans ce match-là. On l'a échappé en fin de match. Mais non, d'après moi, on va avoir une bonne série de ce côté-là.
Premier match Oilers-Ducks ce soir. L'Avalanche qui a battu les Kings 2-1 hier. Vegas qui a battu Utah 4-2. Mais je veux te parler de l'autre série dans l'Ouest. Match à 21h30 ce soir. Le Wild du Minnesota face aux Stars de Dallas. 6-1 Wild dans le premier match. Personne n'avait vu ça venir.
Ah, même pas proche. Même pas proche. T'sais, même moi, j'ai pris Minnesota, mais j'ai pris Minnesota en 7, là. Je veux dire, moi, je m'attends à une série une bataille de tous les instants, mais dans le premier match, on n'était pas là du tout. Faut dire que Roope Hintz, là, pour les Stars, ça fait mal. Là. Je veux
Ah,
dire,
tellement.
c'est leur deuxième centre, là, pratiquement leur premier. Là.
Ben,
Wyatt Johnson a éclos cette année, là,
c'est ce
mais.
qui leur avait coupé les ailes l'an passé contre les Oilers d'Edmonton, également en finale de conférence. C'est quand Roope Hintz est tombé au combat.
Ben oui, puis tu sais, Eskanen est revenu, mais est-ce qu'il est vraiment à 100%? On le sait pas. Tandis qu'on prend une équipe du Wild qui, année après année, semble avoir certaines difficultés en série, mais là, on ajoute un Quinn Hughes. Ça vient complètement transformer cette équipe-là. Fait que c'est sûr que c'est un match. Là. On va pas partir en peur, là, mais en ce moment, dans l'Ouest, c'est l'équipe qui a le mieux paru après une partie, puis ils semblent destinés à faire un bon bout de chemin en série.
Vraiment, Alex Laramin, toujours un bonheur de te parler. Je te garde en onde avec nous parce que je veux te parler d'une petite expérience bizarre que j'ai vécue à Montréal. Et comme tu habites Montréal, je veux avoir ton opinion. Ça te va?
Alors, on jase de ça, mon gars.
Excellent!
On en jase.